Bonjour, bonsoir. Pour cette dernière table montée de manière un peu improvisée, je vais tout de suite donner la parole à Justin Weiss pour nous éclairer un petit peu sur justement ce regard français sur cet ordre régional et cet ordre mondial. Ensuite, je me donnerai la parole pour faire une synthèse et vous poser des questions à vous intervenants. Et je suis là pour vous enquiquiner un petit peu, sachez-le. Et puis ensuite, pour finir, donc Michel Vévorka apportera sa conclusion, sa pierre à l'édifice sur la notion d'ordre et de violence. Justin,
super, c'est à toi. Merci. Merci. Alors d'abord, désolé d'avoir un peu bousculé le bel ordonnancement du programme que Michel Fouché avait prévu, et j'ai malheureusement pas pu être présent ce matin et vous parler de Brzezinski et Kissinger. Donc, à la place de choses passionnantes et bien établies, je vais essayer de faire quelques commentaires, sans doute un peu plus fumeux et un peu plus éthérés sur l'ordre européen et l'ordre mondial. Merci en tout cas de l'invitation, Michel, et bravo pour ce colloque très, très intéressant. Je vais essayer, alors on m'a dit 12 minutes, donc je sais que je vais faire plus, donc je vais commencer vite. D'abord, je pense que je vais placer ces quelques propos dans le moment assez particulier que nous vivons, après une campagne électorale qui a duré longtemps et dans laquelle les thèmes mondiaux n'ont pas été très présents, mais les thèmes européens ont certainement été très, très présents, et qui, elles-mêmes, cette élection, cette campagne, ont créé des effets politiques et des effets sur la perception à la fois de l'ordre européen et de l'ordre mondial. Je commencerai par le premier. Bon, par quelques minutes de constat. Les deux ordres sont remis en cause et de façon assez profonde. Pour l'ordre européen, c'est une remise en cause externe d'abord, remise en cause par, le changement assez profond de relations avec la Russie à partir de 2014 et la remise en cause du type de relations que l'UE avait avec la Russie et de la façon dont elle concevait cette relation avec la Russie. Le pays qui a changé le plus à cet égard n'est pas la France, mais c'est plutôt l'Allemagne. La mise en place de sanctions assez durables en est le signe. Mais d'autres défis aussi, défis du voisinage sud. 10 ans ou 12 ans après la mise en place de la politique européenne de voisinage, on ne peut pas dire que ça ait été une grande réussite ni à l'Est ni au Sud. Et bon, évidemment, il y a eu des facteurs historiques généraux qui expliquent aussi cette situation. Mais il est certain que l'ordre européen a été bousculé de l'extérieur également par les guerres et les turbulences au Sud,
par exemple sous l'espèce des migrations à partir notamment de 2015, sous l'espèce de ces relations avec la Turquie et la mise en cause assez profonde du type de relation qu'elle avait avec la Turquie. D'autres défis externes, le terrorisme, bien sûr, qui a frappé à divers endroits en Europe, en particulier en France, mais pas uniquement. Et puis, en dernier, depuis 6 mois, le défi porté par Donald Trump de remise en cause d'une politique, de remise en cause au moins apparente d'une politique qui avait prévalu depuis 1945 et qui consistait à encourager l'unification du continent européen sous la forme de la communauté européenne, puis de l'Union européenne, etc. Et puis de remise en cause, là encore au moins apparente, de l'OTAN, au moins pendant la campagne. Donc mise en cause externe.
Et une mise en cause interne aussi de l'ordre européen, beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante, par
ce qu'on appelle les populismes qui sont toujours anti-UE, d'où qu'ils viennent, et qui apportent une contestation de l'ordre européen beaucoup plus grave, beaucoup plus existentielle que les défis externes qui peuvent aussi avoir un rôle, disons, de coalescence ou disons un effet de resserrer les rangs pour les pays européens et qui ont accentué les trajectoires divergentes. Alors c'est évidemment d'abord le cas pour le Brexit, pour le vote, le référendum d'il y a à peu près exactement un an de la Grande-Bretagne, mais on le voit aussi, et donc qui
remet assez profondément en cause la façon dont le continent est organisé, mais aussi des nationalismes exacerbés ou des souverainismes exacerbés.
Pologne, bien sûr, Hongrie également. Et donc cette menace, cette mise en cause de l'intérieur est encore plus grave, plus existentielle que
celle venue de l'extérieur. Et puis, bien sûr, elle entraîne une exacerbation des tensions autour de sujets
tels que la crise de l'euro hein, et la politique d'austérité et d'autres. Voilà pour l'ordre européen. L'ordre mondial n'est pas moins remis en cause que l'ordre européen, mais là, la question est davantage systémique, disons. C'est celle de la modification de la répartition de la puissance dans le système international. La puissance, depuis une quinzaine d'années, évolue de deux façons dans ce système. D'abord, elle est davantage répartie. Hein, pour simplifier, on va de l'unipolarité vers la multipolarité. Et d'autre part, elle est moins étatique. Et elle est plus partagée avec des acteurs non étatiques. Ça, c'est une tendance générale. Il est évident que les acteurs étatiques retiennent, disons, conservent leur ascendant, mais c'est tout de même une des raisons.
On le voit sous l'espèce des groupes armés terroristes, par exemple, non étatiques, hein, Daesh, Boko Haram et d'autres. Donc, ces deux, pardon d'être un peu théorique, mais enfin, ces deux aspects de la puissance qui, comme le mercure, glissent de la main, à la fois de certains États, des États-Unis en gros, vers les autres, et d'autre part, des acteurs étatiques vers les acteurs non étatiques, est la vraie raison pour laquelle l'ordre mondial est remis en cause. Mais là encore, et c'est assez amusant, la remise en cause la plus importante et la plus sérieuse, ou celle qui concrétise les autres aspects de la remise en cause de l'ordre international, c'est les États-Unis, c'est-à-dire c'est une remise en cause interne. Ce que signifie l'élection de Trump, c'est que les électeurs ne sont plus satisfaits, disons, la classe moyenne américaine, ou ce qu'il en reste, n'est plus satisfaite de payer pour l'ordre libéral international. Parce qu'elle estime que, alors que...
Depuis 1945, cet ordre mondial lui avait bénéficié sous la forme d'une certaine stabilité économique, d'emploi, bon, avec évidemment des nuances, mais et puis une certaine sécurité. Elle a perdu tout cela, la sécurité, avec les attentats notamment, les emplois manufacturiers qui disparaissent à cause, dit Trump, même si ce n'est pas entièrement vrai, de la Chine, de l'ALENA, etc. Bon, bref, en gros, l'ordre libéral international ne marche plus pour les États-Unis. Et ce que Trump fait, c'est en effet de vouloir utiliser les atouts de l'Amérique, les atouts de puissance de l'Amérique pour reconfigurer l'hégémonie américaine, pour travailler moins aux biens publics mondiaux et à ces fameux ordres libéraux internationaux et un peu plus aux intérêts concrets de l'Amérique de façon unilatérale et de façon beaucoup plus directe. Ça, c'est ce qui est théorisé notamment par Michael Hunton, qui est l'un des théoriciens du Trumpisme dans son ouvrage dans son article dans American Affairs assez récent. Et c'est sans doute le défi le plus important qui est lancé à l'ordre mondial. On peut aller plus vite. On sait bien ce que c'est pour la Chine, pour la Russie, du point de vue de la Russie. C'est assez largement une contestation de cet ordre mondial et de la façon dont il fonctionne, ou à minima une revendication du droit, elle aussi, de violer quand ça l'arrange les règles de l'ordre libéral international. Et du côté de la Chine, un mélange de préservation de cet ordre mondial, parce que la Chine a intérêt à cet ordre qui a permis sa croissance, hein, au cours des 20-30 dernières années. La Chine a fait sa croissance dans un ordre qui était un ordre américain et dont elle veut préserver au moins certains des avantages, notamment en termes de commerce. Mais donc préservation pour la Chine, mais aussi contestation dans sa région et souhait de faire évoluer cet ordre et de faire un ordre qui soit, disons, un peu moins occidental, occidental et un peu plus chinois. L'AIIB, la banque d'investissement chinoise, en est un bon exemple. Mais on voit bien que là, on a une position qui n'est pas une position de pure contestation, comme souvent c'est le cas pour la Russie, même si la Russie, évidemment, souhaite conserver en particulier certains des piliers de sa puissance, comme la présence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voilà un petit peu, le tableau, remise en cause très profonde, et je pense que l'élection qu'on a vue s'est faite dans un contexte géopolitique profondément différent à cause de cette double remise en cause de celui qui prévalait en 2012. Alors, face à ça, et ce sera la réponse en quelque sorte, quelle conclusion, quelle politique on en tire, c'est d'abord d'affermir l'Union européenne et de reprendre en main la direction de l'Europe. Vous avez peut-être remarqué, il y a un sondage Pew qui date d'hier qui le dit très bien, qu'il y a une sorte de résurgence de la popularité de l'Europe qui est vraiment en hausse très rapide et qui est liée largement au Brexit. C'est l'idée que on s'aperçoit de la valeur de l'Europe quand l'Europe vous quitte, ou quand vous quittez l'Europe, pour être plus précis. Et c'est un peu ça que le Brexit a révélé. Il y avait déjà eu un petit frémissement en début juillet dernier, les premiers sondages après le référendum du 23 juin. Et là, c'est confirmé par là. Et donc, l'idée est de profiter de ce moment pour que l'Europe, en gros, protège ses citoyens et donne des résultats. Et ça veut dire donner des résultats dans essentiellement deux domaines. Et je pense que c'est la priorité de l'action du président maintenant. La défense, et d'une part, et les questions d'eurozone, les questions économiques, d'autre part. J'ajouterai en troisième position, certainement, la question des migrants. Défense. Alors évidemment, la remise en cause par Trump n'est pas si de l'OTAN par Trump n'est pas si puissante qu'elle force des pays comme l'Allemagne à des révisions déchirantes pour leur sécurité. C'est-à-dire l'Allemagne ne va pas tout d'un coup réviser son système de sécurité au prétexte que Trump met en cause l'OTAN, parce que cette remise en cause n'est pas prise entièrement au sérieux. Mais il n'empêche, il y a un moment qui peut être utilisé, qui peut être exploité, où la défense européenne peut progresser. Deuxième grand sujet, l'eurozone. Là, il y a évidemment quelque chose à faire. C'est sans doute le chantier le plus important pour l'avenir de l'Europe que de réparer, disons, cette eurozone qui ne fonctionne pas correctement et qui est en particulier de créer les outils pour que cette zone monétaire soit plus efficace, des outils à la fois de sauvetage, un fonds monétaire européen et à travers un budget de capacité d'action contracyclique pour éviter de rester dans la crise comme on l'a vu au cours des dernières années. Donc voilà, ça sont sans doute les deux chantiers prioritaires, avec en plus celui des migrants, pour essayer de faire en sorte que, disons, ce petit printemps européen qu'on voit maintenant, à cause du moment Trump, à cause du moment Poutine, à cause aussi du moment Brexit, et je dirais du moment Macron, puisse se transformer en différence. Mais si l'on en vient à la question, disons, de l'action extérieure et du rôle de l'Europe, là, au fond, ce qu'on voit se dessiner à travers notamment le renforcement très puissant qu'on voit à l'œuvre actuellement du couple franco-allemand, c'est une sorte de gaullisme européen, c'est-à-dire d'insistance sur la souveraineté. Il ne s'agit plus d'avoir des rêves de gouvernance mondiale où les souverainetés seraient dépassées. Au contraire, il s'agit d'affirmer les intérêts à la fois commerciaux, économiques et de sécurité de l'Europe à travers une forme donc qu'on peut appeler de gaullisme européen et de reprise en main plus stratégique de notre puissance. Il s'agit moins comme il y a 10 ans, 12 ans, quand Marc Leonard pouvait écrire un livre qui s'appelait Why Europe Will Lead the 21st Century, ou quelque chose comme ça, pourquoi le 21e siècle sera européen, de diffuser nos façons de faire, mais plutôt de se réinsérer dans le jeu des puissances de l'ordre mondial en sachant faire jouer nos atouts et en le faisant de façon beaucoup plus stratégique. Un exemple, c'est sur le plan numérique, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. L'Europe, ça n'est ni la vision de l'Internet qu'ont la Chine et la Russie, c'est-à-dire d'un Internet morcelé, d'un intranet, disons, par pays, et contrôlé et fliqué, etc., et fermé. Ça n'est pas non plus la vision américaine d'un Internet entièrement ouvert et qui transforme l'Europe en colonie numérique des États-Unis et qui livre les consommateurs européens ou les citoyens européens, et en particulier leurs données personnelles, au traitement par les GAFA. On a une voix différente à la fois sur la liberté d'expression, sur les questions de répartition, sur les questions fiscales, sur les questions de cybersécurité, et donc il est temps d'affirmer cette vision européenne. Alors on n'est pas d'accord sur tout, mais la base d'accord est beaucoup plus grande que, disons, ce qui nous rapproche et beaucoup plus puissant que ce qui nous différencie. Et c'est un bon exemple, mais c'est juste une illustration de ce que une forme de gaullisme européen peut faire. Enfin, sur le cadre international, je crois que ce gaullisme européen s'accompagne d'une réaffirmation très cynique et très froide de l'intérêt du multilatéralisme. Non pas nécessairement pour incarner ou, disons, pour exalter et faire avancer des valeurs progressistes, mais parce que cette règle du jeu et ce mode de coopération entre les pays proposé par le multilatéralisme, par les organisations internationales, est la meilleure façon d'assurer à la fois la stabilité dans un monde multipolaire de plus en plus compétitif et en même temps le traitement des grandes questions globales comme le climat, évidemment, mais aussi les questions de santé. Hein, les épidémies, en particulier de choléra, progressent considérablement en Afrique de l'Est, au Yémen et ailleurs, donc des défis qu'on voit ressurgir et qui ne sont pas passibles de solutions nationales. Et ça, on le sait bien. Et donc, cette réaffirmation-là conduit naturellement à renforcer les cadres multilatéraux auxquelles la France croit et auxquelles elle contribue et auxquelles elle souhaite contribuer plus encore. Et pour le coup, vraiment, vraiment terminé, si cette réaffirmation de la règle des organisations qui peuvent, de façon le plus efficace et sans idéalisme, sans angélisme, permettre de régler ces questions-là, si donc les partenaires doivent être des partenaires qui ne sont pas les partenaires traditionnels de l'Europe, hein, qui étaient traditionnellement les États-Unis et d'autres, mais si ça doit par exemple être la Chine, c'est-à-dire si, tout en gardant les yeux grands ouverts sur les pratiques commerciales chinoises en particulier, les ouvertures faites sur, d'une part, le climat et, d'autre part, le commerce. Et je dirais, troisièmement également, sous certains aspects, et là encore avec les yeux grands ouverts, la sécurité. Si ces ouvertures sont sérieuses, l'Europe travaillera avec ceux des partenaires qui concourent à réaliser ces objectifs, hein, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. Et donc là, je crois qu'il faut bien avoir conscience que l'ordre mondial ayant évolué, ce type de partenariat est aujourd'hui beaucoup plus, disons, il est beaucoup plus réaliste qu'auparavant de les envisager. Il y a certainement des tas de limites, mais je crois qu'il faut bien se placer dans cette perspective-là. J'ajoute que pour la Chine, peut-être que cette demande de leadership vient trop tôt et que la marge de supériorité de la Chine par rapport à d'autres est encore insuffisante, hein, contrairement à la marge de supériorité des États-Unis en 1945 qui lui a permis depuis lors d'exercer une forme de stabilité hégémonique, pour prendre le jargon des théoriciens des relations internationales. Mais bon, il se trouve que maintenant, on a des défis à régler, des défis pressants. Là encore, le climat est un sujet vraiment, vraiment important et la donne internationale a changé. Et dans nos politiques, une des possibilités est en effet d'avoir recours davantage à d'autres types de partenariats. Voilà.
Merci Justin. Merci beaucoup. Il me revient donc à moi de faire une synthèse des débats. Et d'abord, je tiens à remercier Michel Fouché pour l'organisation de cette journée de réflexion, journée d'études. Ça me fait penser, en regardant le profil des intervenants, quand c'est un mini G20, quelque part. Voir un conseil de sécurité élargi, cher Michel, vous avez réussi, je le vous vois, à faire cette réforme du conseil de sécurité, et voir un mini Davos, et je sais que comme vous êtes sur le temps long, Davos de la réflexion, comme vous êtes sur le temps long, j'imagine que vous avez pensé à renouveler l'exercice peut-être tous les ans ou tous les deux ans, mais ce serait à mon avis une bonne initiative.
Si Justin me finance, oui.
Et peut-être qu'il a, dans la salle, il aurait fallu peut-être aussi la présence de représentants des ambassades et des autres think tanks, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, moi, j'aimerais vous dire d'abord trois choses avant de poser des questions. La première, c'est que j'ai l'impression qu'on est ce que j'appellerais la règle des 3D, de ce que j'ai retenu de vos interventions. Le premier D, c'est le dépassement. J'ai le sentiment que vous avez tous retenu effectivement les fractures, les mots, le monde va mal, j'ai entendu fracture, j'ai entendu chaos, j'ai entendu autisme, j'ai entendu pathologie, bref. Et c'est intéressant de commencer à faire le diagnostic, le constat d'un monde qui va mal, mais il aurait été intéressant d'aller au-delà, de se dépasser et d'envisager, d'énumérer les responsabilités, de reconnaître ses erreurs. De reconnaître ses erreurs. Ça, c'est le premier point de dépassement. Le deuxième point de dépassement, et là, c'est, je sais que Michel Fouché est très, très, très attaché, c'est peut-on imaginer autre chose que le cadre national ? Et si on peut dépasser ce cadre national comme sens de la réflexion, est-ce qu'on va se dépasser, mais tomber, c'est-à-dire vers le nationalisme ou le néo-nationalisme, ou est-ce qu'on va aller vers un monde néo-national ? Et je vous invite à lire l'ouvrage de Michel Fouché et de Bertrand Badi. Ça, c'est le deuxième. Le troisième point de dépassement, et mon voisin Justin a évoqué la notion de puissance. D'autres aussi l'ont évoqué, mais c'est surtout là Justin qui l'a évoqué. La notion de puissance, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être une puissance ? Quel est le sens donné au mot puissance ? Pendant 3 siècles, le monde s'est construit sur l'idée de puissance. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on n'est pas dans un monde de faiblesse où la puissance ne joue plus son rôle ? Au sens classique du terme. Et le dernier point de dépassement, c'est est-ce que le monde occidental, s'il existe, est-il capable d'accepter de ne plus être le maître du monde, donc de partager la responsabilité de l'organisation mondiale, ou est-ce qu'en même temps, le monde extra-occidental va-t-il arrêter un jour cette vulgate anti-occidentale systématique qui consiste à dire que finalement c'est toujours l'Occident qui est responsable et que les responsabilités des régimes locaux et des acteurs locaux est totalement effacée. Donc c'est cette question qui m'intéresse. Le deuxième D que je vois à partir de vos débats, c'est le décloisonnement. La Terre tourne, on le sait, mais le système international est aussi rotatif. Et on le voit bien, on assiste à un décentrement du monde. On a parlé de province pour l'Europe, et voire d'un monde sans Trump. America alone, disait Alexandra Neubscheffer. Et donc, la question qui m'a intéressé, et on a vu ça cet après-midi avec Marie-France et ses deux débats, c'est la diplomatie sud-sud. On a eu un exemple avec un ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et un expert de l'Amérique latine. On avait l'impression d'avoir deux diplomaties, je dirais une diplomatie sud-sud. Après, on a eu une diplomatie, le deuxième débat, une diplomatie qui était nord-sud, et ça m'a fait penser à quelque chose qui m'avait marqué, moi, quand j'avais fait un bouquin avec Roland Dumas, c'est quand il avait expliqué comment on était arrivé à régler la question du Cambodge. On l'a réglé parce qu'il y avait une coprésidence nord-sud, France-Indonésie. Donc moi j'invite les acteurs aujourd'hui autour de ces différentes tables à imaginer peut-être des résolutions de conflits avec un mixte entre des acteurs du nord et des acteurs du sud. Ça pourrait marcher, la preuve, ça a marché au début des années 90. Autre point de décloisonnement, les zones d'influence. C'est revenu souvent, et je sais là aussi que M. Kortounov, Michel Fouché et d'autres se sont intéressés. Mais les zones d'influence dans un monde globalisé, on voit bien l'intention derrière de revenir à un monde, et j'y reviendrai, multipolaire. Mais qu'est-ce qu'on fait des petits acteurs ? Ils ont droit à une souveraineté limitée ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? Et les zones d'influence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais ce que je veux dans ma région ? Parce que je suis le leader de la région et personne n'a le droit d'intervenir. Pas obligé d'intervenir sous la forme militaire, mais c'est une question qu'il faut aussi se poser. Ensuite, rien que l'intitulé du décloisonnement, l'ordre régional et l'ordre international, en soi, pour moi, c'est une forme d'échec et de limite. C'est normal, c'est une problématique. Mais on a vu à travers M. Wang Zi qu'il était très difficile de définir une région. Et tant qu'on n'a pas la définition consensuelle d'une région, on aura forcément des conflits. Ensuite, l'incertitude qui revenait souvent dans vos propos. Mais là aussi, on entend faire sans Trump. Ça ne veut pas dire exclure les États-Unis. Mais pourquoi ne pas imaginer de plus en plus des coopérations bilatérales, trilatérales, multilatérales, mais sans les Américains, puisque Trump a décidé de sortir de tel cadre. Et donc, poursuivre sur cette lancée, mais pas de manière uniquement théorique, mais aller sur le concret. Et puis, dernier point de décloisonnement, Justin en a parlé, les acteurs non étatiques, personne n'en a parlé à part Justin. Personne. Les acteurs non étatiques aujourd'hui, notamment issus de la société civile, sont incontournables dans les processus de résolution et des conflits et de l'organisation de l'architecture mondiale. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On les intègre ou on ne les intègre pas ? Le troisième point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est le dialogue. C'est le troisième D, donc dépassement, décloisonnement, dialogue. Nous sommes dans un monde d'interdépendance, tout le monde le dit. Et en même temps, il n'y a pas d'altérité. L'autre n'est jamais son égal, il est soit exclu, soit inférieur. Problème, on est dans un monde qui est moins conflictuel selon l'ICG, 70 conflits dans le monde, et pourtant il y a un problème de confiance. Donc il faut essayer de trouver une articulation pour sortir de cette contradiction. Le dialogue, c'est aussi l'inclusion. Personne n'a trop parlé de l'ennemi. C'est quoi l'ennemi aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans un concept schmittien de l'ennemi ? Ou est-ce qu'on est dans un concept vague où l'ennemi, un jour, c'est Daesh, un autre jour, c'est le salafisme, et pour les autres, c'est uniquement le terrorisme au sens large ? Jean-Luc Racine disait « Tout le monde parle à tout le monde ». C'est faux. On est dans un monde aujourd'hui où tout le monde ne parle pas à tout le monde. C'est faux. Je veux dire, on ne parle pas au Hamas, on ne parle pas au Hezbollah, on ne parle pas à Bachar.
Moi, je m'en... Peu importe, bien, pas bien, c'est autre chose, je ne suis pas là-dessus. Et je considère que Bachar n'est pas une solution, c'est un monstre.
Mais ce qu'on a fait avec Milosevic dans les années 90 pour arriver à une solution où Milosevic n'existe plus et qui a la paix relative dans les Balkans, pourquoi ne pas y avoir pensé avant pour Bachar en Syrie ? Sans remonter à Staline en disant que c'était un allié, etc. Juste à la fin de la guerre froide. Autre point important sur le dialogue, c'est le multilatéralisme. Là aussi, donc Justin en a parlé à la fin, je suis désolé de le citer, mais à chaque fois, mais c'est une réalité. On en a parlé une seule fois, de manière vague, à propos donc de la sécurité collective au Proche-Orient. Mais quand même, on est dans un monde qui se dit qui n'a jamais eu autant besoin du multilatéralisme et qui pourtant est en défaut de multilatéralisme, puisque les États-Unis sortent des différents cadres multilatéraux pour essayer de trouver une solution ailleurs. Donc à partir de ces 3D, j'ai des questions à vous poser. Moi, ce qui me frappe en voyant le profil des intervenants, c'est que vous êtes tous quasiment, je dis bien, moi dedans, hein, puisque je suis français, tous quasiment issus de sociétés, d'États qui ont connu l'impérialisme. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêts à abandonner vos réflexes de domination pour aller vers un monde meilleur ? Est-ce que le russe, le chinois, le français, l'anglais, qu'est-ce qui reste parmi les gens présents ? L'indien, un petit peu, l'iranien ? Est-ce que vous êtes prêts à abandonner vos réflexes de domination pour aller vers un monde meilleur ? C'est une question que je vous pose. Deuxièmement, M. Miglioni a parlé du rapport entre statique et dynamique. Excusez-moi, j'y crois pas trop. Pourquoi ? Pas parce que j'ai envie de le contredire, mais lorsqu'il y a le congrès de Vienne en 1815, là, effectivement, on peut parler de rapport étroit entre statique et dynamique. Pourquoi ? Parce que le rapport espace-temps entre les différents acteurs est le même. Mais aujourd'hui, dans le monde, le rapport espace-temps n'est plus le même. Un occidental a une vision du temps beaucoup plus rapide qu'un oriental, etc. Un homme de l'Est, un homme du Sud. Ce sont différentes notions du temps et de la matrice espace-temps. Donc c'est important, à mon avis, de le préciser. Autre point important, Alexandra de Hubschefer a parlé de... Allez, aux États-Unis, il y a de plus en plus l'idée de la fin d'hypocrisie américaine. On est conscient, c'est la fin d'hypocrisie américaine. Est-ce que ce ne serait pas plutôt la fin d'hypocrisie mondiale ? C'est une question qu'il faut se poser. Je prends un exemple tout simple pour illustrer mon propos. Il y a 4 États qui fricotent plus ou moins avec le terrorisme djihadiste. On le sait, l'Arabie Saoudite, le Qatar avec l'histoire de la matrice idéologique, le Pakistan avec les talibans et voire Al-Qaïda, surtout Al-Qaïda, et puis la Turquie avec Daesh et Ali Kazandjic, c'est pas moi qui le dis, c'est Ali qui le dit, il a raison de le dire d'ailleurs, qu'il y a eu des relations, voire à un moment donné, Davutoğlu qui disait « Daesh n'est pas notre ennemi, c'est notre allié ». Il ne faut pas l'oublier. Et pourtant, on veut lutter contre le terrorisme djihadiste. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va signer des accords avec l'Arabie Saoudite, notamment Trump. On est parti pour des décennies du wahhabisme et du salafisme. Donc, eux, ils nous tiennent par quoi ? Ben, par les hydrocarbures. La Turquie nous tient par quoi ? Par l'Alliance Atlantique. Et le Pakistan nous tient par quoi ? Par l'arme nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, États occidentaux ou États du monde, pour lutter contre le terrorisme quand quatre des acteurs servent un petit peu de boîte noire, de voie de transit, des acteurs non étatiques et terroristes ? Question. Ensuite, vous avez tous parlé, mais c'était en filigrane, le rapport entre, je dirais, l'économique et le politique. Le monde d'après 45, le monde d'après 18, s'est construit sur une prééminence du politique, sur la suprématie du politique. Depuis les années 70, il y a une rivalité entre l'économique qui pousse, qui pousse, qui pousse, et le politique qui résiste. Et en 2008, il y a eu une victoire de l'économique sur le politique. Et la réponse des États et la réponse des acteurs politiques, c'est d'avoir accepté et d'avoir abdiqué devant la puissance de l'économique. Lorsque vous parlez aujourd'hui de système international qu'il faut relancer, rénover, reconstruire, acceptez-vous, quand je dis vous, pas vous en tant que tel, mais les gouvernements, acceptent-ils de reprendre la main ? Et là, je reprendrai un petit peu aussi ce qu'a dit Justin sur la politique, mais je ne mettrai pas la politique au féminin, mais au masculin. Acceptez-vous de reprendre la main du politique pour contrôler ou réguler davantage l'économique ? Et j'en reviens forcément à l'idée d'une Europe politique, parce que ce qui s'est fait à partir de Maastricht jusqu'à maintenant, ce n'est pas vraiment une Europe politique, c'est une Europe de libre-échange. La vision, je dirais, britannique, voire même scandinave de la construction européenne. Là, il y a une chance. C'est, malheureusement, l'Angleterre a quitté, enfin la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Il y a une chance pour le couple franco-allemand, et j'y reviendrai. Donc ça, c'est aussi une question que j'ai envie de vous poser. Ensuite, la politique étrangère. C'est en filigrane de toutes vos interventions. Mais c'est quoi aujourd'hui une politique étrangère ? C'est quoi une diplomatie aujourd'hui dans un monde globalisé ? Est-ce qu'on va continuer, nous occidentaux, avec nos diplomaties de punition, de sanctions, ou est-ce qu'on va être dans une diplomatie d'inclusion ? J'en reviens aussi à l'idée du moteur hybride, et ça c'était M. Kortounov. En fait, il revient en fait à dire et à reprendre l'idée de Medvedev d'un modèle européen, d'une architecture commune entre les différents acteurs européens. Mais avec ou sans les États-Unis, ce moteur hybride ? Avec ou sans les Américains ? Je reviens également aussi sur la notion d'ordre régional. Le régionalisme est une notion qui a été tentée pour régler les problèmes de la mondialisation. Et ça a échoué. On a entendu avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, le panafricanisme, etc., etc. Il veut y revenir, mais ça a échoué. L'exemple type, c'était l'Union européenne comme modèle suprême de l'intégration régionale. Et on voit bien que c'est difficile. Alors, c'est pas un échec à 100%, mais ça ne marche pas comme on pourrait l'imaginer. L'ALENA ne marche pas, le Mercosur ne marche pas, la CEI ne marche pas. Bref, il n'y a aucune organisation régionale qui marche. Et pourtant, on veut y revenir. Très bien, allons-y. Mais alors, dans ces cas-là, on nous parle de l'Arabie saoudite qui s'inquiète de l'Iran. Mais l'Iran aussi est inquiète. La Turquie aussi est devenue un petit peu parano. Donc les principaux acteurs de la région, c'est-à-dire Turquie, Arabie saoudite et Iran, sont dans une logique paranoïaque, en se disant que si l'autre il est trop fort, c'est une menace pour mon existence, et donc forcément, ça me pose un problème. Là où je suis surpris dans l'ordre régional, c'est que personne n'a parlé du Kurdistan. Il va y avoir un référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien. Personne n'a osé parler du Kurdistan. Qu'est-ce qu'on fait du Kurdistan ? Est-ce qu'on reste dans une logique d'État-nation ? Ou est-ce qu'on essaie d'imaginer autre chose ? Donc c'est important aussi de répondre à cette question. Ensuite, et là j'y reviens, on est dans le temple du temps long, Brodel, Furet et je dirais Michel Fouché. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée du temps long. Non, je plaisante un petit peu, mais il y a un fond de vrai. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée du temps long. Non, mais d'accord, mais il y a tout un... J'entends bien l'idée du temps long, mais... Les politiques aujourd'hui, les décideurs, les chefs d'État, ils sont dans le temps court. Alors comment associer la réflexion sur le temps long avec des chefs d'État qui pensent, une fois qu'ils sont à peine élus, pensent déjà à la prochaine élection ? Donc ça aussi, c'est une question à laquelle il va falloir répondre. J'en reviendrai aussi sur la bipolarité, le G2, Chine, États-Unis. Et on a parlé, et qui est le troisième ? Est-ce que c'est le Japon ? Est-ce que c'est l'Union européenne avec l'Allemagne en particulier ? Est-ce que c'est la Russie ? Il fallait voir à un moment donné Monsieur Moll parler de la troisième puissance. Et c'était intéressant. Il a dit, bon ben voilà, la Russie est incapable. Il fallait voir la tête de Monsieur Kortounov. Il a dit l'Inde peut-être dans 30 ans. Mais Monsieur Kortounov était absent. D'un coup, il n'existait plus. Alors qu'on sait très bien que le rôle de la Russie aujourd'hui, c'est d'essayer de retrouver son statut de puissance et d'être l'interlocuteur privilégié des États-Unis. en espérant qu'avec Trump, ça marche. Mais bon, ça ne marche pas trop. Ensuite, je reviens sur l'idée du G2, voire d'un monde de plus en plus multipolaire. Souvent, l'expression revient, mais je suis en total désaccord. Le monde n'est pas plus multipolaire qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que la bipolarité pendant la guerre froide, c'était un système qui était sur attraction-répulsion, avec deux systèmes économiques différents. Il n'y a qu'un seul système économique, c'est le capitalisme, avec ses variantes. Mais tout le monde a accepté le monde capitaliste comme la base du progrès et du développement. Or, on est dans un monde plutôt polycentrique, à la limite, mais pas multipolaire, encore moins unipolaire, voire apolaire. Donc, ça, c'est aussi important, à mon avis, de le dire. On a parlé également... Et là, je reviens parce que ça m'a un petit peu surpris. On a parlé de sécurité régionale, de sécurité collective. C'était un peu le thème de la table précédente, c'est-à-dire l'idée d'une OSCE. Mais les amis, l'OSCE ne marche pas. Elle est en plein reflux, l'OSCE Proche-Orient. Ça ne marche pas. Exemple type, il n'y a plus de bureau de l'OSCE dans le Caucase du Sud. Les trois bureaux de l'OSCE viennent de... Enfin, le dernier, c'est à Erevan, il vient de fermer le veto de l'Azerbaïdjan. Ensuite... L'OSCE a été créé comment ? Ça a été créé en pleine guerre froide, en phase de détente. Est-ce qu'il y a une guerre froide au Proche-Orient ? Non. Est-ce qu'il y a une détente ? Vraiment pas. Troisièmement, les décisions prises par l'OSCE sont des décisions non contraignantes. Et ça ne marche pas. Imaginez des décisions non contraignantes au Proche-Orient ? Chacun fait ce qu'il veut. Quatrièmement, toujours sur l'OSCE, qu'est-ce qu'on fait d'Israël ? On intègre Israël dans l'OSCE ou pas ? Alors, à ce moment-là, si on intègre Israël dans l'OSCE, il va falloir changer toutes les législations nationales des pays arabes pour qui Israël ne peut pas être un acteur et un interlocuteur dans quel que soit le problème. Je pense notamment au Liban. Enfin, j'ai encore 3-4 questions à vous poser. La première, qui revient souvent, c'est, vous avez parlé de règles, de valeurs, moi je dirais de normes. La guerre actuellement qu'il y a, elle est sourde entre les différents acteurs des relations internationales. C'est une guerre de normes. Qu'est-ce qu'un droit de l'homme ? Qu'est-ce qu'une démocratie ? J'entends encore M. Miura, représentant du Japon, parler, insister sur la démocratie, les droits de l'homme, etc. etc. et indirectement en pointant la Chine sur les manquements à la démocratie. Mais ces valeurs-là, est-ce qu'elles sont aujourd'hui partagées ? Est-ce que les valeurs occidentales qui se sont répandues depuis 3 siècles, est-ce qu'elles ne sont pas contestées aujourd'hui ? Ça ne marche plus. Donc là aussi, il va falloir y remédier. Je reviens sur une question sur le moment Macron. Peut-être qu'il y a un moment Macron. Peut-être. Peut-être qu'avec le Trump d'un côté qui s'éloigne, la rencontre avec... Poutine, qui s'est pas si mal passé que ça, finalement. Mais le gaullisme européen, il faudrait qu'on aille un peu plus loin. C'est quoi, en termes d'approche diplomatique ? Est-ce qu'on est dans une logique, comme il le dit, gaullo-mitterrandienne ? Alors, qu'est-ce qu'on fait de la logique des valeurs et la logique néoconservatrice qui a été en place pendant 10 ans ? Comment on arrive à construire ça ? J'en reviens à une autre question, et c'est l'avant-dernière. Monsieur Migliorini disait... Attention, l'État-nation va éclater. Et alors, qu'il éclate ? Qu'il éclate ! Est-ce qu'on s'est plaint d'avoir des micro-États, Andorre, Monaco, Luxembourg, Liechtenstein, Malte, même une membre de l'Union européenne ? Le monde entier comprend des micro-États. On s'en plaint pas. Le seul bloc, si on peut parler de bloc, le seul espace qui ne comprend pas encore de micro-États reconnus, c'est l'ex-Union soviétique. Et pourquoi pas là-bas aussi des micro-États ? On a des poches comme ça, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud. Mais pourquoi pas des micro-États si c'est pour faire avancer la paix ? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi faudrait-il systématiquement avoir comme seul cadre normatif l'État-nation dans un monde de plus en plus globalisé ? Surtout que, attention, on a pris l'exemple de la Catalogne, de la Ligue Lombarde ou alors de l'Écosse, mais tout le monde, toutes les problématiques ne peuvent pas prétendre à un jour s'ériger en État-nation. Ça aussi, c'est important. Il faut bien faire la nuance entre les différents conflits infra-étatiques. Et puis, je terminerai sur la trumpisation du monde. Oui, nous sommes dans une trumpisation du monde, malgré le moment où, bien qu'il y ait un moment Macron, Poutine, Erdogan, Modi, Xi Jinping, etc., etc. Allons-nous vers un monde néo-national ? Un monde néo-nationaliste ? Quelle est la réponse à ce monde-là ? Et ça, c'est important, à mon avis, aussi, d'y répondre. Et finalement, je finirai par pour revenir à l'intitulé de départ, par une phrase de Bergson qui disait « Le désordre, c'est finalement l'ordre que l'on ne veut pas voir ». Merci. Michel.
Michel Vieillurca, bonsoir. Je suis sociologue et président du directoire de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Alors, Michel Fouché m'a demandé de faire bref. Alors, je vais essayer de faire presque aussi bien que Woody Allen dans un de ses films très anciens, à qui quelqu'un demande « Est-ce que vous pouvez me résumer « Guerre et paix » ?» et qui répond « Ça parle de guerre et de paix. » Alors, je serai un peu moins concis, mais je vais faire un gros effort. Je voudrais essayer de vous indiquer comment, à mes yeux, après tout ce qu'on vient d'entendre, je n'ai entendu que la fin, mais c'était édifiant, comment il me semble que nous pouvons réfléchir à certains aspects ou certains de ces problèmes, ces 15 questions qui viennent d'être formulées, en réfléchissant à la question de la violence et en la relayant ou en l'articulant à la question de l'ordre. Alors d'abord, la violence, moi, bon, c'est la violence politique, la guérilla, le terrorisme, je suis tout à fait d'accord, il faut en parler, et la guerre. C'est ça, c'est ce type de violence que j'ai en tête. Et ma première remarque, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vu depuis chez nous, ou dans le monde qui est celui, le nôtre ici, la violence a pratiquement perdu toute la crédibilité, tous les courants de sympathie, l'aura qu'elle pouvait avoir il y a encore un demi-siècle. Aujourd'hui, c'est presque le mal absolu. La violence, ça mériterait discussion. Je n'en dis pas plus. Alors, quelques points donc importants. Premier point, la violence, appelons-la politique, mais en donnant un sens politique et géopolitique à l'expression, avait hier, je vais sauter de hier à aujourd'hui, hier, c'est-à-dire il y a 40, 50 ans, elle avait des objectifs qui concernaient la vie collective sur Terre, dans une société, à une échelle régionale, à l'échelle de la planète, des objectifs de prise de pouvoir d'État. Elle avait un rôle à jouer dans l'histoire, si vous voulez, en tant que telle, dans l'histoire politique, pour instaurer un ordre, défendre un ordre, mettre fin à des injustices, etc. Aujourd'hui, je vais le dire tout de suite, aujourd'hui, elle est devenue à la fois métapolitique et infrapolitique à bien des égards. Et c'est ce point-là qui me semble important. Elle est devenue métapolitique, ça c'est quand elle est en particulier religieuse. C'est quand même impressionnant de voir que dès qu'on parle de religion, dès qu'on parle de terrorisme, on pense, et dès qu'on parle d'un certain nombre de conflits armés, on pense religion avant de penser politique. Et puis d'un autre côté, elle est infrapolitique au sens où elle donne une telle place à la subjectivité personnelle des individus qu'elle semble moins politique et qu'elle semble répondre à d'autres choses. D'une part, cette subjectivité qui peut pousser certains à se donner la mort pour aller dans l'au-delà, le martyrisme, et que d'un autre côté, elle a des dimensions, appelons-les instrumentales ou économiques, évidentes. Aujourd'hui, un très grand nombre d'expériences de violences politiques deviennent des violences criminelles assez classiques. C'est, je débarque de Colombie, c'est les FARC, qui était au départ une guérilla et qui deviennent un acteur du narcotrafic. Et en même temps donc, que la violence devient métapolitique ou infrapolitique, tout en gardant des dimensions politiques, bien sûr, mais quand même peut-être moins nettement qu'avant, en même temps, je pense qu'on ne peut plus la penser, et ça c'est l'idée principale que je souhaite vous présenter, on ne peut plus la penser dans les catégories anciennes ou classiques de l'État-nation et de son prolongement, les relations internationales. Je ne dis pas que ça disparaît, la réunion d'aujourd'hui montre que ça existe encore, bien sûr, et que c'est important, mais qu'à bien des égards, il faut penser autrement, et que penser autrement implique de prendre en compte l'interpénétration, thème qui a été abordé ici, l'interpénétration des questions, des problèmes, les problèmes internes et les problèmes externes se mêlent, se télescopent en permanence. Ça prend l'allure donc de ces violences dont on ne sait pas très bien s'il faut les combattre d'abord en externe ou d'abord en interne. Et évidemment, je pense au terrorisme lié à l'islam radical, mais il n'y a pas que celui-là. Et cela nous oblige aussi à réfléchir à autre chose. Et donc, je vais presque terminer là-dessus, Michel. L'idée principale que j'avais l'intention de développer beaucoup plus, c'est la suivante. Dans le passé, il y avait des formes de violence politique, que ce soit de la violence interne à une société ou de la violence internationale, dans un monde qui était structuré par deux grands types de conflits, même si c'était des visions qui étaient un peu, ou un peu trop même, idéologiques. D'un côté, en interne, à l'intérieur des sociétés, ce qui structurait la vie collective, c'était le conflit qui opposait le mouvement ouvrier et les maîtres du travail. Et en externe, c'était la guerre froide. Et donc ces deux conflits structurants, c'est ça pour moi le paradoxe, produisaient un certain ordre. À l'intérieur des sociétés, quand on savait gérer, appelons ça la lutte de classe, eh bien négocier, institutionnaliser, eh bien il y avait un certain ordre. Et de ce point de vue-là, la social-démocratie a eu des très grandes réussites. Et de la même façon, en matière internationale, le fait qu'existe la guerre froide permettait, parce que c'était une guerre froide, permettait justement d'éviter le passage à une violence extrême, même s'il y a eu un ou deux épisodes où on n'en a pas été très éloigné. Et donc, l'idée que je voudrais vous présenter, c'est celle-ci. Si nous souhaitons retrouver de l'ordre international, quel est le titre exact de la rencontre, de l'ordre international, durable, des ordres régionaux, viables, je pense qu'il ne faut pas rêver à un monde sans désordre, c'est-à-dire, ou à des sociétés sans désordre, c'est-à-dire à des sociétés sans tension, sans différence, sans conflit, sans clivage. Non, il faut s'interroger sur la capacité, pour réintroduire de l'ordre, la capacité à tous les niveaux de la société, comme plus globaux, régionaux et globaux, de reconnaître l'existence des conflits pour les traiter politiquement. C'est d'ailleurs pourquoi l'expression post-conflit qu'on entend parfois dès qu'il s'agit de certains épisodes de lutte armée est une très mauvaise expression. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'on passe du conflit au non-conflit, à mon sens. Il s'agit beaucoup plus de dire qu'on passe du conflit armé au conflit institutionnalisé, négociable, où l'on discute. Et donc pour moi, la question centrale, elle est là. Est-ce que nous pouvons aller vers un monde où nous serons plus capables, davantage capables, de transformer les crises, les guerres, les violences en débats, en négociations, en institutionnalisation de conflits à différents niveaux. Et je terminerai en ajoutant juste une toute petite remarque. C'est très intéressant, nos façons de réfléchir, et c'est aussi la mienne spontanément, dès qu'on dit dépasser les problèmes, s'ils sont dans la société, on pense qu'il faut créer un ordre au-dessus. Alors on pense à l'Europe, on peut réfléchir aussi à un ordre en dessous. Et je pense, je dis ça aux géographes, et ça ma conclusion, que ce qui se joue au niveau de la ville mérite aussi d'être partie prenante des réflexions qui sont celles qui ont animé ce colloque. Et je terminerai vraiment par une remarque que Pierre Hassner avait faite, que je trouve merveilleuse, dans un de ses livres, en introduction d'un de ses livres. Il disait à son lecteur, je cite de mémoire, « Cher lecteur, je pense que je ne réponds certainement pas à toutes tes questions, les 15 questions de Gaït. J'espère au moins que j'aurai élevé ton niveau de perplexité. » Alors je pense que, en nous posant toutes ces questions, Gaïtz a bien montré que ce colloque avait permis d'élever notre niveau de perplexité à tous. Voilà, je ne serai pas plus long.
Merci.